Radio Canu vous présente, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Chambre 420. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Regarde autour de lui, la pièce est grande, elle est meublée en salon, petite bibliothèque Louis XIII, bureau, horloge, dans un coin, une table basse avec deux chaises. L'on ressent tout ça une certaine douceur. J'ai ressenti les premiers frémissements du vieillissement vers les 40 ans. Oui, je sais, 40 ans, ce n'est pas la vieillesse. Mais l'on s'aperçoit que ses forces ont un peu diminué, surtout du côté sexuel, c'est très frappant. On a aussi moins envie de courir. Ensuite, les années viennent et la dégringolade continue. L'on arrive à 55 ans comme moi, avec une certaine fatigue de vivre. On ne peut plus suivre le rythme du temps. Alors on se fait une petite vie bien à soi. Voilà mon vieil ami. Et c'est pour cela que vous avez laissé tomber vos amis. Ce n'était que mes amis, mais je me suis isolé de ma famille, de mes anciennes maîtresses. S'arrêtent de marcher tous deux. Et pourquoi cela? Par lassitude, manque de courage, d'énergie, et peut-être aussi de paresse, qui sait.
Il faut vous secouer, vous n'êtes pas si vieux que cela.
Et ils se remettent à marcher tous les deux dans la pièce. Jean et son ami André, de dos, se ressemblent. Ils sont tous les deux grands et larges, les cheveux grisonnants, habillés d'un costume marine. De face, Jean ne porte pas de lunettes, mais il a une fine moustache grise. Son visage est doux. Cette douceur est rehaussée par la couleur de ses yeux, qui sont d'un bleu pâle.
Donc tu comptes rester chez toi, enfermé le restant de tes jours. En quelque sorte, oui. Que veux-tu que je fasse? Le monde ne m'intéresse plus. Et que comptes-tu faire de tes journées enfermées ici? Que fais-tu?
Je lis, j'écoute de la musique, je dors.
Tu ne vois même pas tes enfants?
Non, ils me fatiguent, ils sont toujours en mouvement, excités. Ils ne pensent qu'à acheter, voyager. Nos enfants, ils ont fait des petits monstres en jean, les filles comme les garçons, ne pensant qu'à demander de l'argent à leur père, écoutant de la musique insupportable, toujours un casque sur les oreilles et des patins à roulettes aux pieds, que l'on n'appelle plus, oh je ne me souviens plus, tu sais, ça s'appelle plus patins à roulettes, maintenant ça a un nom plutôt barbare. À 13 ans, ça boit de la bière constamment et ça fume comme un sapeur. Ça ne sait pas le français, mais ça parle couramment l'américain. Que veux-tu que je fasse avec ces petits monstres?
André met la main sur son bras.
As-tu cherché à les comprendre? C'est qu'ils n'aiment pas les mêmes choses que nous, n'ont pas les mêmes valeurs, mais ils aspirent à la même chose, au bonheur, à l'amour.
Jean hausse les épaules.
Tu crois ça? Si tu voyais ce qu'ils aiment, la violence, le sexe, le vulgaire, les sensations fortes. Mais tout ça, c'est pour cacher leur sensibilité. Souviens-toi, lorsque tu étais jeune, tu camouflais tes faiblesses par une certaine violence pour te protéger.
C'était pas la même chose.
Mais si, il faut que je parte, Jean. J'ai bien fait de venir te voir. Je suis venu parce que tu ne répondais pas à mes lettres. Secoue-toi et retourne à la vie. Tu n'es pas mort, que diable. Tu regretteras de ne pas avoir assez vécu. Allez, au revoir, Jean.
Au revoir, André, et merci d'être venu. Quant à retourner à la société, au monde, cela ne me dit rien.
J'ai des difficultés à me réveiller. Je me lève de plus en plus tard. C'est pas comme avant, où je me levais à 5 heures. Il faut que je fasse quelque chose tout de même pour me lever un peu plus tôt. Je m'aperçois, c'est qu'en me dormant beaucoup, mon cerveau s'engourdit.
Allez, levons-nous.
Il se lève et met ses pantoufles. Et va dans la salle de bain. Me voici à mon bureau. Voilà belle lurette que je n'écris plus. L'inspiration s'est tarie comme le reste d'ailleurs. Quand je pense à tout ce que j'ai écrit, durant 10 ans, une dramatique radiophonique par semaine, 20 pages, je devais trouver un sujet toutes les semaines. C'était atroce, atroce. Cela m'a enlevé tout le goût d'écrire,
ou plutôt le plaisir. Il ouvre le tiroir de son bureau.
Il y a dedans des stylos à billes de toutes sortes et des feutres. Voilà mes outils de travail. J'ai jamais pu écrire à la machine à écrire. Je déteste tout ce qui est mécanique. De toute façon, l'on ne peut pas écrire une histoire d'une façon mécanique. Il faut prendre des pauses, réfléchir, suivre le rythme de l'histoire. Il referme le tiroir. 52 histoires différentes par an. Il se lève et marche dans la pièce. S'arrête devant un portrait de femme. Elle doit avoir dans les 30 ans. Est brune, visage agréable et habillée d'une robe blanche. Et assis sur une chaise avec un fond de tapisserie vert bouteille. Ma pauvre Mathilde, depuis que tu m'as quitté, je ne suis plus bon à rien. Ta disparition a été dure pour moi, tu sais. Quelle saloperie que le cancer. Réveillé par l'arrivée de sa femme de ménage qui frappe à la porte de la chambre et entre. C'est une petite grosse femme, cheveux gris à chignon. Elle porte une blouse noire à pois blancs.
Monsieur n'est pas bien?
Si, mais il est quelle heure?
10h15.
Déjà? Moi qui avais décidé de désormais me lever plus tôt. Il se lève.
Il se sent lourd et un peu le vertige. La bonne ouvre les volets de la fenêtre.
Dormi. Je me sens pas bien. Il va dans la salle de bain.
Il se regarde. Il est tout pâle. Sa vue n'est pas bien nette. Il est obligé de se pencher le plus près possible de la glace qui se trouve au-dessus du lavabo. Tout à coup, il a chaud à la tête, sa gorge serre, ses jambes ne le tiennent plus. Un grand trou noir.
Le docteur Duruc, médecin de famille, se penche sur Jean, qui est allongé tout habillé sur son lit. C'est la femme de ménage qui l'a appelé une fois qu'elle eut trouvé son maître à terre inanimé. Elle avait accouru en l'entendant tomber à terre. Jean retrouve conscience, mais ne peut ni bouger ni parler. Il voit le visage du médecin qui se penche vers lui. Une grosse tête ronde, cheveux noirs, dégarnis sur le devant. Lunettes en acier, grosses moustaches. Il lui soulève ses paupières et regarde ses yeux. Puis le médecin se redresse.
Une attaque, une première attaque.
On frappe à la porte. La porte s'ouvre. Un homme entre.
Un manteau noir et un chapeau. Il est grand, maigre, a le visage ridé. Le médecin surpris lui dit
« Voilà vous !»
L'homme s'approche de lui. Il se décoiffe.
« Je suis venu à tout hasard. Il me semble que celui-ci, vous pourriez me le laisser. »
Le médecin s'avance d'un pas.
« Et vous n'y pensez pas ?» Mais si, justement. Mais c'est impossible. Et ma réputation? Vous en avez déjà pris un il y a un mois. C'était un jeune. Les gens vont changer. Je vais perdre ma clientèle.
L'homme hausse les épaules.
Que comptez-vous en faire? Voyez bien que c'est fini pour lui. Il n'y a plus rien à faire. Allez, laissez-le-moi. Tenez, je vous propose une chose. Vous direz que vous l'avez envoyé dans une clinique. Comme cela, vous ne serez pas responsable. Et nous terminerons le travail chez nous. J'ai une ambulance en bas. Je vous le promets, il sortira d'ici sans que l'on y touche.
Le médecin réfléchit en marchant.
Il hausse ses épaules et s'arrête de marcher devant l'homme. Bon, si ça ne me met pas en cause, je veux bien. Et si vous terminez le travail en dehors, allez-y.
L'homme sort. Et descend les escaliers. Sort de l'immeuble. Devant l'entrée, en stationnement, se trouve une ambulance. Deux hommes en blouse blanche fument devant. L'homme leur dit
« Vous pouvez y aller !»
Ils jettent leurs cigarettes à terre, ouvrent l'ambulance, sortent un brancard et entrent dans l'immeuble. L'homme les suit et ils montent les étages. Et entre dans l'appartement. Et la chambre. Le médecin y est toujours. Il est debout devant le lit, les mains derrière le dos. Les brancardiers prennent Jean, le mettent sur le brancard.
Pourquoi est-ce que le médecin ne le soigne pas chez moi?
L'ambulance est partie. Elle file hors de la ville. Jean ne peut toujours pas parler. Il se sent secoué de tous les côtés. La voiture va très vite. Après 2 heures de route, elle suit un grand parc qui l'amène devant une grande maison Jean 19e siècle. Elle s'arrête devant l'entrée. Le brancard dans la maison. Une femme sèche de 50 ans en blouse blanche s'approche vers lui.
Chambre 640.
L'homme en manteau noir s'approche d'elle.
Non, 420. Mais ce serait du gâchis. 420.
Comme vous voulez, 420.
Et le brancard monte au premier. L'on ouvre la porte 420. C'est une chambre blanche d'hôpital avec un lit en fer blanc. Il dépose Jean sur le lit. sorte. Entre deux femmes en blouse blanche. Il déshabille Jean. Lui mettent une chemise de nuit blanche et le recouchent. Jean reste une heure seul, puis un homme entre dans sa chambre. Il ausculte et sort. Ensuite, la porte s'ouvre. Une infirmière avec une table roulante se trouve dessus des accessoires pour la saignée. Bonjour, nous allons nous occuper de vous. Elle lui fait une entaille au bras, lui colle un tuyau pour que le sang puisse être déversé dans une bouteille. Aïe! Aïe! Le médecin vient chaque jour et tape pour voir mes réflexes. Et il dit toujours, il y en a toujours trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Je n'y comprends rien du tout, rien. Il n'y a pas de bruit dans cet hôpital, rien, toujours rien. L'infirmière chef, celle que j'ai vue en rentrant dans la clinique et qui voulait pas me donner la chambre 420, est au pied de mon lit avec le médecin.
Devons-nous accélérer la fin, docteur? Nous ne pouvons pas. C'est la chambre 420, mais une douce. Mais la phase finale ne va pas tarder. Il s'affaiblit tout de même.
Les entendre. J'ai l'impression qu'il cherche à me donner la mort. Mais je ne veux pas. Je n'ai pas du tout envie de mourir. Je veux sortir d'ici. Mais avant, je dois prendre des forces. Comment? Étant donné que l'on ne me donne pas à manger. Au début, j'ai cru que j'allais vomir. J'ai vu que sur la table où on m'amenait ma bouteille pour recevoir mon sang, se trouvait une bouteille déjà pleine du sang d'une autre personne. Alors, j'ai bu quelques gorgées chaque jour de ce sang. Au début, ça a été terrible. Mais maintenant, je m'y suis habitué. J'ai même pris goût des forces. Et j'ai pris un peu goût à ce que je bois.
Je n'y comprends rien.
Les coriaces. Ses réflexes sont meilleurs, il me semble, reprendre vie. Le médecin fait non de la tête.
Passez à la dernière phase.
Demain, nous terminons tout ceci.
Qu'est-ce que veut dire cette dernière phrase? Je me sens mieux. J'ai même retrouvé la parole. Je veux sortir d'ici. Oui, je veux sortir d'ici. Mais comment ?
Dans la nuit, il se lève sans faire de bruit. Va ouvrir l'armoire où se trouvent ses vêtements. Les sort et les met. Sort de la chambre. Le couloir est vide par le moindre bruit. Mais au standard de l'entrée se trouve une femme. Il se cache derrière un pilier. Et il attend. La femme se déplace pour aller chercher un café. Court vers la sortie. La femme l'a vue. Elle téléphone.
Allô? Le 420 s'est évadé.
420, 420. Ah! Ne vous en faites pas. Il n'en a pas pour longtemps. Nous ne tarderons pas à le revoir. Il est arrivé sur la route en pleine campagne. Il marche pendant quelque temps, puis se couche dans l'herbe et dort. Se réveille et va sur la route. Une voiture passe. Il lui fait signe de s'arrêter. conduire à Lyon ?
Oui, bien sûr, montez.
Et la voiture démarre.
À Lyon, Jean se sent faible. Il a faim. Il entre dans un restaurant, rue des Marronniers.
Tu n'es pas formidable.
76 de qui ?
Lurton.
Ah.
Merci.
Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air en forme.
Il est 13h. Malheureusement, le repas qu'il a commandé ne lui dit rien. Et pourtant, il a faim. Il sort du restaurant sans avoir mangé. Arrivé devant la vitrine d'une boucherie, il s'arrête. L'odeur de la viande saignante lui donne le vertige. Il entre. Il commande une bonne tranche de bœuf bien saignant. Chez lui, il serre la viande dans un bol pour en retirer tout le sang. Il jette la viande dans la poubelle et boit le bol de sang. La journée, il reste chez lui à penser ce qui lui est arrivé.
Je ne comprends rien du tout à ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je faisais dans cette clinique et qu'est-ce que l'on voulait de moi ?
Dans l'après-midi, il sort, il se sent bien. J'ai l'impression d'avoir rajeuni. Comme c'est drôle. Et il est vrai qu'il a rajeuni. Le sang lui a donné des forces. Vous ne pouvez pas faire attention, non ? Il venait en la croisant de faire tomber un paquet que tenait une jeune fille. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne vous avais pas vue. Elle a dans les 20 ans, grande, mince, blonde, cheveux bouclés, visage enfant. Elle porte une robe à fleurs beige pâle. Il se penche pour lui ramasser son paquet et le lui donne. Je suis confus. Si vous voulez, pour me faire pardonner, je vous offre à boire un verre. Je veux bien. Et ils vont dans un café rue Victor Hugo. Café est vide. Il s'assoit dans un endroit retiré et commande de café.
Je m'appelle Jean Nallet et moi, Oridis. Vous habitez Lyon ?
Oui, derrière les routes de Perrache.
Moi, j'habite Lyon, rue Ney. Je vis seul dans un appartement. Ma femme est morte et mes 2 enfants sont mariés.
Moi aussi, je suis veuve. Mon mari est mort il y a de cela 2 ans. Il était spéléologue, je l'aidais. Nous étions partis à la Pierre Saint-Martin.
Et
Le drame a eu lieu. C'est moi qui ai eu l'accident. J'étais descendue toute seule. Je ne pouvais plus remonter à cause d'un éboulement. Il est allé me chercher et il en est mort. Il a tout juste eu le temps de me remonter. Lui n'a pas pu. C'était horrible. Il me poussait en avant, poussait. Je me suis retourné et il m'a regardé. Et le sol s'est effondré sous ses pieds. Je n'ai rien pu faire, ni les secours non plus. Le corps est toujours en bas. Et moi, je suis ici, grâce à lui. Jean la voit si émue qu'il lui prend la main et la lui serre très fort. Vous vivez seul ?
Oui. En fait, pas tout à fait. J'ai un pensionnaire à qui j'ai loué une de mes chambres. Cela me permet d'avoir un peu d'argent. Mon salaire de secrétaire et la pension de mon mari ne me suffit pas. Cela fait du bien, vous savez, de vous avoir parlé. Vous savez, la vie n'est pas facile pour une femme qui vit seule. Il lui sourit. Ils terminent de boire leur café et sortent. Je vous remercie pour le café. Attendez, je vais vous raccompagner. Non, merci. RH n'est pas ici, vous savez. J'appelle un taxi, je vous raccompagne et je rentrerai après. Bon, si vous voulez. Taxi s'arrête devant une petite maison d'un étage. C'est une petite maison avec un portail et un jardinet. Avant de descendre du taxi, je vous invite à dîner puisque vous m'avez ramené en taxi. Ne dites pas non. Ils sortent tous deux du taxi, ils payent et l'ouvrent le portail. Ils entrent tous deux. On ne se croirait pas à Lyon. Il y a des tas de petites maisons comme celle-là. Ils entrent dans la maison. Petit couloir carrelé de mosaïques, escalier de bois ciré, porte-manteau et seau pour parapluie. C'est au premier. Il monte à l'étage. Elle le fait rentrer dans la salle à manger. Meubles en bois massif, marron foncé, style campagnard, les stores sont restés fermés. Dans un coin du mur se trouve une vieille armoire à glace. Asseyez-vous, je vais vous préparer le repas. J'en ai pas pour longtemps. Vous désirez boire quelque chose ? Non, merci. Elle sort de la pièce. Il ne s'est pas assis, il marche les mains dans le dos. Arrivé vers l'armoire à glace, il voit que la glace reflète une image triple et double. Elle doit avoir un défaut de fabrication. Il entend que l'on monte les escaliers. Il se retourne. Il entre dans la pièce, Eurydice et un jeune homme. Tiens, il me semble que je connais cette personne, mais je ne vois pas qui c'est. C'est un homme de 25-30 ans, grand, mince, brun, visage agréable et habillé d'un pantalon blanc et d'une chemise blanche aussi. Eurydice s'avance. Il faut que je vous présente M. Jean Nallet et M. Hortebise, mon pensionnaire. Monsieur, maintenant que la présentation est faite, il faut que je me sauve, car j'ai encore affaire à la cuisine. Vous êtes nouveau pensionnaire ?
Non, je suis une connaissance à madame.
Moi, cela fait 2 ans que je vis ici. Avant, je connaissais très bien ma propriétaire. Asseyons-nous, si vous voulez. Ils vont s'asseoir à table l'un face de l'autre.
jeune homme dit « Il me semble que je vous connais. » Jean lui répond « Moi aussi, mais je ne vois pas. »
Le jeune homme lui demande « Vous faites quoi comme métier ?»«
J'écris des romans, des scénarios pour pièces radiophoniques. Et vous ?»«
Moi, je suis infirmier. » »«
Infirmier ? Tiens, il me semble. » »«
Non, c'est impossible. Je n'exerce que pour les cas désespérés. Je ne ramène jamais mes clients. » Avant, j'habitais la banlieue, la zone, mais qu'il y a de plus en plus de difficultés à circuler et de plus en plus de travail, alors je me suis fixé ici. J'ai amené mes meubles, dont cette armoire. Ma chambre est trop petite, alors Aurélis m'a permis de la mettre ici. Auparavant, cette armoire, je leur avais prêté au début de leur mariage. Elle m'est très utile, cette armoire, vous savez. Aurélis arrive pour mettre le couvert. Il ouvre le buffet pour prendre une nappe et des assiettes.
Bise regarde Jean et le trouve bien pâle, presque terreux comme ses clients.
Vous êtes malade ?
Non. Durant le repas, Jean ne peut pas manger. La nourriture lui donne mal au corps. Aurélis lui demande si le menu ne lui convient pas.
Ce n'est pas cela, mais d'un seul coup, je n'ai plus eu faim. Pardonnez-moi. Vous êtes malade ?
Non. Que le repas est fini, Jean a faim, mais une faim de sang. Il n'a qu'une seule hâte, c'est de rentrer chez lui. Il faut que je parte. Il remercie, et en tendant la main à Ortebise, Ortebise voit qu'il a les mains gelées et qu'il a au poignet des marques de piqûres.
Vous m'aviez bien dit que vous pensiez m'avoir déjà vu.
Oui, dit Jean. Une fois qu'il est parti, Ortebise demande à Aurélis comment elle a connu cet homme. Elle lui explique sa rencontre.
« Pardonnez-moi, mais je dois sortir, » dit Ortebise.
Ortebise se dépêche de sortir car il veut suivre Jean. Rentrant chez lui à acheter de la viande bien saignante. Dans sa cuisine, il la suce pour en prendre le sang. Ensuite, il se sent mieux. Il décide de sortir. La nuit est tombée. Il marche dans les rues au hasard. Il arrive rue de Gerland, entre dans un café. Il commande une bière au comptoir. Entre et se met à côté de lui Ortebise. Jean est surpris.
Tiens, vous êtes là, vous ?
Oui, je surveille mes malades.
Vous travaillez la nuit ?
Non, je fais des heures supplémentaires.
Ah !
Ortebise commande deux bières. J'en prendrai bien une avec moi ?
Merci.
Le barman sert les deux bières. Tobie regarde bien Jean dans les yeux et à la dérobée, il lui met une pastille dans le verre de Jean. « À la vôtre, Jean. À la vôtre, Ordobise. » Deux minutes après, Jean se sent tout retourné. Il a la vie qui se brouille et ses jambes qui ne le tiennent plus. Le barman s'inquiète. « Vous n'êtes pas bien ?»«
Je ne sais pas. Je me sens tout retourné.
Vous voulez qu'on appelle le médecin ?»«
Non, laissez. Je veux m'occuper de monsieur. Je suis infirmier. Je vais le ramener chez lui. » « Ce ne sera pas grave. »
Ordobise maintient Jean et le sort du café.
Il le dépose dans une ambulance sur le brancard de derrière. Puis il prend la place du chauffeur. La voiture démarre. L'ambulance a roulé à une vitesse effrénée. Jean inquiet demande « Où allons-nous ? »
« D'où vous venez ? Votre petite escapade est finie. Le médecin vous attend pour finir. Votre traitement n'est pas fini. Vous avez de la chance. La 420 est encore libre. »
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La chambre 420. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.